Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confions ce temps de méditation à la bienveillance de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, bienheureux Pascal Vergès. Frères et sœurs, chers amis, lorsque je suis venu l'année dernière, c'était pour vous entretenir des saints de la Bigorre, parce que en cérémoniaire diocésain, j'avais réfléchi comment faire entrer le diocèse dans cette année jubilaire. Le jubilé à Rome de l'an de grâce 2025 était romain. Il s'agissait d'aller à Rome sur les tombes des apôtres Pierre et Paul. Et c'est ainsi que j'avais eu l'idée de rassembler les reliques des saints fondateurs ou des grandes figures de sainteté de notre église diocésaine, Saint-Cernin, de qui nous avons reçu la foi dans ce sud de France, Saint Justin, Saint Micelin, les premiers évêques de notre Bigorre, puis des grandes figures de sainteté comme Saint Savin ou encore Sainte Bernadette, avec un petit passage avec Saint Vincent de Paul, qui avait été ordonné sous-diacre et diacre en notre cathédrale de Tarbes. Je précise cela parce que dans ce cortège des saints et des saints bigourdans, nous étions loin de penser qu'à la fin de l'année jubilaire, telle une grâce qui nous vient directement de Dieu, nous accueillerons, et dans notre presbytérium, et pour toute notre église diocésaine, un saint, un bienheureux, un prêtre et un martyr. Et quelle belle figure que celle de l'abbé Pascal Vergès. Il nous a été donné par la Sainte Église, monté à la gloire des autels, donné en exemple, alors que nous fêtions cette année-là le centenaire de la béatification de Sainte Bernadette. Et je crois que là, il s'agissait d'un clin d'œil du ciel où notre grande sœur dans la foi, Sainte Bernadette, nous introduisait auprès de ce grand frère que va nous être, que nous est, l'abbé Pascal Vergès. Il y a quelques similitudes dans le tempérament entre Sainte Bernadette et l'abbé Vergès. Tout d'abord, il n'était pas bavard. Ce n'est pas mon cas. Et vous verrez qu'il y a une discrétion, une modestie, une humilité et un grand sens de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, et chez Sainte Bernadette et chez le bienheureux Pascal Vergès. Il s'appelle Pascal parce qu'il est né le jour de Pâques 1910. Ce jour de Pâques 1910 marque profondément toute l'âme et toute l'histoire même de l'abbé Vergès. Il est baptisé dans l'octave de Pâques le 27 mars 1910. C'est vraiment un fruit de ce temps pascal. Ses parents l'ont appelé Pascal et il est vrai, nous le verrons, que toute sa vie est marquée par ce passage de la mort à la vie éternelle. Tout a commencé pour lui donc dans son village de Auquin. À Auquin, il a donc reçu le sacrement du baptême. Son parrain a répondu en son nom : « Que demandez-vous à l'Église de Dieu ?» La foi. Que procure la foi ? La vie éternelle. Si donc vous voulez posséder la vie éternelle, observez les commandements. Les commandements sont résumés ainsi par notre Seigneur : l'amour de Dieu et l'amour du prochain. L'abbé Vergès est un peu le héros et de cet amour de Dieu qui caractérise son âme, mais aussi de cet amour du prochain jusqu'en ces derniers instants qu'il passera en posant un acte de charité, nous le verrons. Ce baptême change profondément sa vie du point de vue surnaturel, comme il a changé la nôtre. Il a été élevé à cette dignité d'enfant de Dieu, baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et il est né dans une famille profondément chrétienne, une famille pratiquante comme elle l'était dans une très grande majorité, encore que nous sommes en 1910, ce qui veut dire que le petit Pascal va grandir en entendant parler de la grande blessure que fut la séparation de l'Église et de l'État, et aussi de ce que ça avait pu apporter comme incompréhension du point de vue des catholiques. Il se souviendra enfin avoir entendu M. le maire se targuer de loger lui-même le bon Dieu maintenant, puisque l'Église était devenue propriété communale. Il faut replacer un peu les choses dans tout ce contexte qui est celui de son enfance. Cette famille est profondément chrétienne, et elles aiment en particulier, cette famille-là, recevoir les prêtres. Le curé vient régulièrement à la maison. Le père de l'abbé Vergès, Jules, est tout d'abord entré à la garde républicaine, puis sera ensuite gendarme. C'est donc quelqu'un qui a quitté le monde agricole d'où il venait, avec certaine incompréhension du père. Mais comment peux-tu devenir gendarme? Personne n'est devenu gendarme chez nous, personne n'est parti pour être à la garde républicaine. Et l'abbé Vergès sera confronté à la même incompréhension à l'endroit de son père. Devenir prêtre? Mais personne n'est prêtre chez nous. Voilà que l'abbé Vergès est donc habitué à voir des prêtres reçus dans sa maison. Marie Vergès est une femme profondément pieuse. Il y en a ici deux personnes que je vous amenais de Luz qui l'ont connue. Marie Vergès, toute donnée aussi au bon Dieu, va donc élever cet enfant, l'abbé Vergès. Il va très tôt être disposé aux choses de Dieu. On va remarquer qu'il aime particulièrement aller à l'église et dans l'église, aime particulièrement se retirer à l'autel de la Sainte Vierge où il passe là du temps devant la belle statue en bois doré de l'église d'Aucun. Il va donc, au milieu de cette enfance, connaître, comme toute cette génération-là, la Première Guerre mondiale. Il aura 4 ans et puis 8 ans à la fin de cette guerre. Son père part tout d'abord, puis comme il est gendarme, va rester ici en Bigorre. L'abbé Vergès va donc s'efforcer d'enraciner cette foi et l'exemple de son curé sera décisif. Il s'appelle l'abbé Jean-Baptiste Gézat, originaire non loin de là, de Villelongue, tout en bas à côté de Pierrefitte. Il va être marqué par cette figure sacerdotale qui va reconnaître chez l'abbé Vergès une vocation. Mais l'heure n'est pas encore pour l'abbé Pascal de se décider. C'est au jour de sa confirmation qu'il va recevoir en notre église de Luz Saint-Sauveur que l'abbé Vergès va vraiment sentir à la fois l'appel décisif de sa vocation, mais en recevant Dieu le Saint-Esprit, cette force qui va lui permettre d'entrer l'année suivante au petit séminaire de Saint-Pé de Bigorre. La famille, vraisemblablement, a aménagé à Luz Saint-Sauveur, soit au lendemain de la guerre, en 1919, où son père est nommé gendarme, ou un petit peu après. Une chose est sûre, c'est qu'en 1926, pour le recensement, la famille Vergès vit à Luz Saint-Sauveur, près de l'église, là où Lulu et Mimi ont connu la maison de la famille Vergès. L'abbé Vergès rentre donc au séminaire après cette confirmation. Et au petit séminaire de Saint-Pé, on a retrouvé les tableaux d'honneur, on a retrouvé quelques commentaires. Il s'agissait d'un bon élève. Du petit séminaire de Saint-Pé de Bigorre, il va passer au grand séminaire de Tarbes. Alors celui-ci est en pleine construction. On ne sait pas encore au comité Abbé Vergès la chapelle même où il a été ordonné diacre, chapelle du séminaire. Cependant, la chapelle dont vous vous servez habituellement le dimanche et en semaine a été consacrée, je crois, en 1936. Or, l'Abbé Vergès est ordonné prêtre en 1935. Donc on ne sait pas s'il s'agissait de cette chapelle qui aurait peut-être été utilisée avant sa consécration. Ça a pu se faire. En tous les cas, nous ne connaissons pas le lieu de cette ordination diaconale, mais gardez le lien avec ici quand même ce séminaire dont le bâtiment, lui, existait, mais la chapelle n'était pas encore consacrée à ce moment-là. L'abbé Vergès va donc être ordonné prêtre pendant une année, enfin deux années, qui ont été assez importantes en ce temps-là. Ça a été le jubilé de la rédemption. 1933-1934, le jubilé est célébré à Rome par le pape Pie XI. Puis, 1934-1935, le jubilé est célébré dans le monde chrétien. C'est ainsi qu'à Lourdes, nous allons recevoir le légat du pape Pie XI, le cardinal Pacelli, qui deviendra, quelque temps après, le vénérable pape Pie XII. Il vient donc clôturer tout ce grand jubilé de la rédemption, et la clôture se fait à Lourdes. Et parce que l'évêque d'alors, Monseigneur Gerrier, avant de devenir cardinal, était ici évêque de Tarbes et Lourdes, avait décidé, après Lourdes, de faire visiter au légat du pape eh bien, la splendeur des Pyrénées. Ainsi donc, le cardinal Pacelli part dans sa voiture et on l'amène tout d'abord à Gavarnie, où il va visiter la splendeur du cirque de Gavarnie, il va y déjeuner, puis il va descendre venir visiter l'église fortifiée de Lucin-Sauveur, juste avant de partir, c'est pas le chemin, mais à Cotteret pour revenir à Lourdes. On montre au légat du pape les lieux touristiques emblématiques de la Bigorre thermale de ce temps-là. Lorsque le légat arrive à l'église de Lucin-Sauveur en mai 1934, l'abbé Vergès est diacre. Et l'abbé Vergès, séminariste, chaque fois qu'il rentrait pendant les vacances, devait se présenter chez le curé de Luce et celui-ci lui confiait des missions. Et la mission de l'abbé Vergès était de faire visiter l'église fortifiée de Lucin-Sauveur. Si vous ne la connaissez pas, cela manque à votre instruction, car il s'agit d'une église atypique au possible. Il n'y a pas de clocher, il y a une tour de garde, il y a véritablement des remparts. Il y a l'église fortifiée confiée jusqu'à la Révolution aux hospitaliers de Saint-Jean qui vont devenir l'ordre de Malte. Donc l'abbé Vergès fait visiter l'église, la seconde église qui lui est adjacente, Notre-Dame de Pitié, et le trésor. Et sur l'unique photo où nous voyons le légat sortir de l'église de Luce, on voit à la fois le curé des Jades et tout à côté le jeune abbé Vergès. Et à côté Mimi, votre oncle prêtre, le chanoine qui deviendra le chanoine Rivière. L'abbé Vergès rencontre ce jour-là de façon assez mystérieuse celui dont il revendiquera avoir reçu l'autorité pour célébrer la messe. Car dans les pires moments de cette année 1943-44, où l'abbé Vergès va rendre son âme à Dieu, suivant le Seigneur dans le mystère de sa passion, dans l'interrogatoire, on lui dira « Vous n'avez pas le droit de célébrer la messe, vous n'avez pas l'autorisation. » Il répondra « L'autorisation, je l'ai. Et de qui l'avez-vous reçue ?» Du pape. Un autre des bienheureux qui ont été béatifiés en même temps que l'abbé Vergès pourra répondre « Mais moi, on m'a fait prêtre pour ça, pour dire la messe. Vous pouvez me tuer pour avoir dit la messe, j'ai été ordonné pour cela. On m'a fait prêtre pour ça. » Et donc ce jour-là, mystérieusement, le futur martyr rencontre le futur pape dont il réclamera avoir reçu l'autorité pour célébrer la messe. On voit déjà là, quelque part dans ce que je viens de vous rapporter du tempérament de l'abbé Vergès, qui n'était pas avare de parole, c'est pas lui qui aurait fustigé quelqu'un en public, mais quand il doit répondre, il répond comme Bernadette. Quand on réussit à tirer les vers du nez de Bernadette et que celle-ci décide d'enfin répondre, elle n'y va pas par quatre chemins. C'est le tempérament bigourdant. Donc on a là l'abbé Vergès, diacre, qui va être ordonné prêtre à la fin donc de cette année jubilaire, enfin de cette année, oui, de la rédemption, qui se termine pour l'épiscopat français par une année sur le recrutement sacerdotal, de telle sorte que Monseigneur Gerlier eh bien, décide de ne pas faire les ordinations sacerdotales à la cathédrale de Tarbes, comme de coutume, mais de célébrer ses ordinations en même temps que les 6 ans de son épiscopat dans la basilique du Rosaire, de telle sorte que l'abbé Vergès, comme moi, ont été ordonnés à la basilique du Rosaire. Mais mes amis, la basilique du Rosaire, nous ne pouvons pas être plus près de la grotte, puisque la basilique du Rosaire est creusée à l'intérieur même du rocher, et que lorsque l'on est dans le cœur du Rosaire, on est très près de la grotte des apparitions. L'abbé Vergès a donc été ordonné là et célèbre le lendemain sa première messe en notre église de Lus-Saint-Sauveur. C'est la raison pour laquelle, depuis sa béatification, les premiers dimanches du mois, après la célébration de la Sainte Messe, nous faisons une demi-heure, nous faisons le salut du Saint-Sacrement pour demander à Dieu, par l'intercession de l'abbé Vergès, des prêtres pour notre Bigorre. L'abbé Vergès est donc ordonné et reçoit comme nomination, il avait déjà été repéré pour ses qualités pédagogiques, pour son tempérament, pour être préfet un peu de discipline déjà en étant diacre au petit séminaire de Saint-Pé. Sa première nomination est d'être professeur de français et de latin au petit séminaire de Saint-Pé. Là, il va passer au milieu des jeunes élèves de belles années, il rentre pour les vacances à Lus-Saint-Sauveur, retrouver sa chère famille. Depuis 1918, la famille s'est agrandie. Il a sa sœur Clémentine, son père gendarme, Marie, qui vit donc à la maison, et l'abbé Vergès, très proche de sa maman, dont on verra qu'elle aura été une très très grande dame, parce qu'elle réussira non seulement à faire rapatrier le corps de l'abbé Vergès, mais de deux autres bienheureux, dont on ne savait pas encore qu'ils étaient bienheureux. Alors, notre abbé Vergès est professeur. Professeur, il y a la vie liturgique au séminaire, il est cérémoniaire du petit séminaire de Saint-Pé, très heureux auprès de ses élèves, mais voilà que survient la guerre. L'abbé Vergès avait déjà fait son service militaire pendant le séminaire, il était parmi les chasseurs pyrénéens, il est parti à l'infanterie à Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde, les grottes où Saint-Antoine de Padoue s'était retiré, pour ceux qui ont quelques éléments de géographie spirituelle. Je suis pas sûr que tout le monde, en pensant à Brive-la-Gaillarde comme moi, pense aux grottes de Saint-Antoine. Mais enfin, c'est là que notre abbé Vergès fit son service militaire, et c'est là, après, qu'il est du coup envoyé au combat. Dans cette première partie de la guerre, il va très vite être fait prisonnier, et pendant 3 années, il va falloir attendre. Et c'est long. Mais comme il y a la Convention de Genève, et que le régime nazi sur ce point tient la Convention de Genève, l'abbé Vergès peut exercer sa fonction d'aumônier, il peut exercer le ministère sacerdotal. Il peut donc confesser, il peut chaque matin célébrer la Sainte Messe. Cependant, au fil des années, nous arrivons en 1943, l'Allemagne triomphante commence à connaître de grands revers. Revers, ils viennent de perdre la bataille de Stalingrad, les Alliés viennent de débarquer en Afrique du Nord, c'est un peu la panique. Et l'industrie de guerre allemande commence à en pâtir, de telle sorte que l'Allemagne nazie demande au gouvernement de Vichy à ce qu'il y ait des Français qui aillent travailler dans les usines allemandes. Il y a quand même quelques-uns qui ont répondu, figurez-vous. Mais comme les chiffres ne sont pas grandiloquents, le régime de Vichy fait passer une loi en lien avec l'Allemagne nazie pour instaurer le STO, le service de travail obligatoire, qui va donc déraciner 600 000 jeunes en 3 vagues. Tous ceux qui sont, ceux qui ont moins de 25 ans, ceux qui sont nés en 1920, en 1921 et en 1922. Nous sommes là déjà dans une époque qui est caractérisée par ce qu'on appelait l'action catholique. L'action catholique voulue par le pape Pie XI qui atteint là vraiment l'apogée même de cet idéal posé par le pape. J'ai connu encore, quand j'étais jeune à Bagnères, des personnes qui étaient déjà âgées, mais dont j'avais pu expérimenter qu'ils étaient, pour parler comme dans l'Évangile, autant Marthe que Marie. Des gens que l'on pouvait trouver autant à genoux devant le Saint-Sacrement, récitant le rosaire, étant pieux extrêmement à la messe, tout en étant les premiers à être au Secours catholique, à toujours avoir le regard de cet amour de Dieu et de cet amour du prochain. Il y avait vraiment dans cette action catholique, alors certes c'est découpé en milieux, etc., mais nous referons chrétiens nos frères. Il y a vraiment cette idée qu'il faut avoir reçu une grande instruction chrétienne, et l'Église met tout, les aumôniers de tous ces mouvements mettent tout en œuvre pour véritablement faire en sorte qu'ils ont une formation chrétienne solide, vraiment solide, et en même temps qu'ils soient tournés vers le prochain et qu'ils puissent ramener là où ils sont tous ces gens qui sont dispersés et les ramener au Christ notre Seigneur. Cette jeunesse, parmi elle, se trouve donc des chrétiens, de jeunes chrétiens, qui ont une immense soif spirituelle, un grand désir d'appartenir au Christ. Ils sont donc envoyés dans ce travail obligatoire en Allemagne, déracinés de leur famille, et l'Allemagne nazie est bien interdit et à l'Église d'Allemagne de porter un quelconque secours spirituel aux Français qui vont venir travailler là. Mais, comme aime à dire Mgr Perrier, c'est le seul point sur lequel Hitler et le pape Pie XI sont d'accord, c'est qu'on ne peut pas être catholique et nazi en même temps. Pour Hitler, on ne peut pas être allemand sans être nazi. Et pour le pape Pie XI, on ne peut pas être catholique et nazi. De telle sorte que l'Église d'Allemagne va être aussi très scrutée sur l'accueil qu'il serait tenté de réserver à cette jeunesse dont on ne veut pas qu'elle ait accès à la messe et à quelconque aumônerie ou quelque mouvement qui pourrait finir par être de résistance, mouvement politique. Mais ces jeunes sont malins et ils ont une grande, grande soif de Dieu, de telle sorte que le cardinal Suard à Paris va fonder une aumônerie clandestine, l'aumônerie Saint-Paul. On commence à chercher parmi tous les confrères évêques de France, quelques prêtres qui ne soient pas des crânes brûlés, mais des prêtres qui soient assez malins pour pouvoir aller justement infiltrer tout ce travail obligatoire et pour pouvoir rendre accessible et l'annonce de l'Évangile, et la vie sacramentelle, et l'enseignement de l'Église auprès de cette jeunesse. Seulement, sur les 22 envoyés, il y en a 20 qui reviennent très vite, ils se sont assez vite fait repérer. L'Allemagne a toujours besoin d'une main-d'œuvre de plus en plus abondante parce qu'elle a du mal à se ressaisir. Alors, puisqu'il dispose d'une grande quantité de prisonniers, on commence à dire qu'on va libérer, entre guillemets, les prisonniers en leur permettant de quitter le statut de prisonnier et d'aller donc travailler en Allemagne. Pour travailler en Allemagne, ils sont quelque peu payés et peuvent, ça reste contestable, mais peuvent être plus libres qu'ils ne l'étaient en prison. Le pauvre Verger, je pense qu'il ne sera pas plus libre dans son travail obligatoire en Allemagne qu'il ne l'était dans sa prison. Pour l'abbé Vergès, il s'agit donc de répondre à un appel, mais un appel qui demande pour lui un grand discernement. Et je crois que l'Esprit Saint reçu au jour de sa confirmation va l'aider à vraiment franchir le pas. De quoi s'agit-il? L'abbé Vergès, il est prisonnier, mais quand on n'est pas patriote comme lui, être prisonnier de guerre, c'est un statut. Tandis que accepter d'être transformé en devenant quelqu'un qui va aller travailler en Allemagne, c'est autre chose. Pour l'abbé Vergès, il n'est absolument pas question de quitter son statut de prisonnier pour aller travailler et jouir d'une plus grande liberté. S'il accepte de partir, c'est pour être prêtre au milieu de cette jeunesse qui n'a qu'un désir, vivre de Jésus-Christ. Vous pourrez vous procurer Paris Notre-Dame, quand j'étais au séminaire à Paris, on appelait ça Paris Notre-Dame. Mais Paris Notre-Dame, le numéro un petit peu, oui, les séminaristes sont toujours un peu espiègles. Le numéro sur les bienheureux, où on recense un peu la vie de ces 50 bienheureux, très peu sont prêtres, une dizaine sont prêtres. Tout le reste, ce sont des jeunes formés, soit au scoutisme et fidèles jusqu'au bout à leur promesse scout, ou des jossistes, etc., etc. On apprend à l'abbé Vergès que parmi ce STO, il y a aussi un grand nombre de séminaristes. C'est un professeur de petit séminaire, on ne peut pas les laisser comme ça, complètement abandonnés. Mais c'est pour lui une grande réflexion. Dans les documents que nous avons de l'abbé Vergès, nous avons quelques lettres de 43-44, la période un peu de sa passion, la période de la passion de l'abbé Vergès, et notamment une lettre que je vais vous lire, qui est adressée à celui qui est l'aumônier général, l'abbé Rodin, qui constituera, après, alors c'est le grand aumônier des prisonniers de guerre, et qui va constituer, à partir de différents groupes qui existaient, le Secours catholique au lendemain de la Seconde Guerre. C'est lui encore, on en fêtera les 80 ans cette année, qui va organiser le pèlerinage du Grand Retour à Lourdes, de tous ceux qui ont été prisonniers, qui dans la Grande Prairie de Lourdes ont été placés en différents stalags pour rendre grâce à Notre-Dame de Lourdes sur le fait qu'ils sont revenus. Ce pèlerinage du Grand Retour, le paradoxe avec les bienheureux, c'est que tous les bienheureux sont ceux qui ne sont pas revenus, justement. Ils ont porté l'ultime témoignage de la fidélité au Christ jusqu'au bout. Dans cette lettre, qui est datée du dimanche 18 juillet 1943, eh bien, l'abbé Vergès s'adresse donc à l'abbé Rodin, qu'on appellera ensuite Monseigneur Rodin. Alors, ce n'est pas facile à lire, parce que c'est l'écriture de l'abbé Vergès, d'une photocopie, deux photocopies. J'espère pouvoir vous en faire une lecture aisée. Monsieur l'aumônier, je me dois de vous mettre au courant de ma situation actuelle. Le commando de prisonniers de guerre dont j'étais l'aumônier depuis bientôt 2 ans a été dissous le 3 juillet et mes camarades en grande majorité, 180 sur 200, sont devenus travailleurs libres. Pour moi, c'est le patriote, hein, j'étais décidé à demeurer prisonnier. Mais le dernier jour, au moment de la signature de la mise en congé, l'officier de Weissenburg me fit appeler et m'affirma avoir reçu du Stalag des instructions suivant lesquelles je pouvais accepter de devenir travailleur libre en exerçant auprès de mes camarades le même ministère. L'abbé Vergès est arrivé, hein, travailleur libre. Hors de tout cela, il n'y a rien de fait et le délégué français m'a nettement spécifié que dans ce camp, toute manifestation était interdite, politique et religieuse. Il m'a même conseillé de ne pas célébrer ma messe, même en privé, pour n'attirer d'ennui à personne. J'en suis réduit à célébrer la messe le soir à l'église catholique la plus proche. Alors, le nom allemand, moi, je n'ai pas été dans un séminaire proche de l'Allemagne, donc je veux. Meisersburg, ça vous ira, à 7 km. Je vous demanderai si cela est possible d'effectuer les démarches nécessaires pour ne pas en rester à cet état. Bref, pour ma part, je fais mon possible pour voir le plus de mes compatriotes. Je suis le seul prêtre libre et les Français se comptent par milliers. Par ailleurs, il se trouve dans ce camp une vingtaine de grands séminaristes, dont certains ont reçu les ordres mineurs et d'autres tonsurés. Vous serait-il possible de me faire parvenir quelques livres, des livres de piété surtout, car pour l'étude, je ne vois guère comment il me serait possible d'organiser quelque chose dans ce sens. Pour l'instant, nous nous en tenons à une lecture spirituelle, une courte méditation, ce n'est guère suffisant. Et le dimanche, seul jour libre, je le dois à tous, et ils sont nombreux, ceux qui désirent s'entretenir avec le prêtre. Donc on voit bien que l'abbé Vergès, qui a fini par franchir le pas pour aller répondre à cet appel, c'est pour ça qu'on les appelle les martyrs de l'apostolat catholique, car que ce soit les jeunes qui se sont efforcés d'appeler des prêtres, ou que ce soit les prêtres eux-mêmes, c'est l'exercice même du ministère sacerdotal qui leur est interdit. De telle sorte que là, l'Allemagne, sentant quand même que le bateau prenait l'eau, durcit encore plus son rapport à l'Église catholique. L'abbé Vergès sera quelque temps après arrêté pendant qu'il célèbre la messe. Pour l'heure, il peut encore aller, parce qu'il pense jouir d'une liberté qu'il n'avait pas dans sa prison. Il peut aller chez ce curé de Meisensburg, avec qui va se lier une grande amitié. C'est vraiment pas un nazi, hein, puisqu'au lendemain de la guerre, il sera nommé évêque de Berlin, ce prêtre-là. Donc il dit souvent à l'abbé Vergès, faites attention, vous vous êtes fait repérer. L'abbé Vergès sent bien qu'il est complètement épié, qu'il est suivi, etc. Et le danger est pour lui-même, mais pour tous ceux qui viendraient assister à la messe, etc. Ça ne va pas l'empêcher, ça ne va pas l'arrêter. Il va baptiser, parce qu'il aura des catéchumènes, il écrira à sa maman. Le dimanche soir, il écrit toujours à sa mère et à sa sœur, puisqu'il va perdre son père en 1941. Je pense que Jules, militaire, de savoir que son fils est arrêté et en prison pour avoir connu la première guerre, je crois qu'il ne s'en est guère remis. Donc, l'abbé Vergès, quand il écrit à sa famille, c'est autre chose qu'écrire à l'abbé Rodin une lettre un peu protocolaire de protestation, essayer de voir, envoyez-nous des hosties, envoyez-nous du vin, envoyez-nous des chapelets, des livres, plutôt de piété. C'est toujours ce qui revient, parce que pour faire de plus en plus, en disant nous n'avons que des livres qui ne sont faits que pour les séminaristes ou pour les prêtres, nous avons besoin de livres de piété, ou ce qu'ils appellent des romans à thèse, pour porter un peu haut les couleurs chrétiennes. Ça n'a jamais arrêté l'abbé Vergès. Le soir, il reçoit les catéchumènes, il va en baptiser deux. D'ailleurs, dans une lettre, il raconte justement à sa maman cette grande, grande joie sacerdotale, malgré le fait que la liturgie ne peut pas être grandement déployée. Il lui écrit ceci à sa mère et à sa sœur le dimanche 17 octobre 1943. Je dois vous faire part d'une grande joie qui m'a été donnée cette semaine. J'ai donné le baptême à un jeune camarade au cours d'une cérémonie tout intime et solennelle à la fois. Cela fait oublier bien des choses. Et je puis dire avoir éprouvé ce soir-là la plus grande joie depuis que je suis en exil. La préparation m'en a pris bien des soirées, mais je ne regrette rien, au contraire. Je suis tout heureux, heureux d'être prêtre au milieu de cette jeunesse. Bien sûr, l'abbé Vergès est vieux pour cette jeunesse. Il le dira dans une lettre, je ne suis pour eux qu'un vieux crouton, mais je leur tiens lieu de tout. Et ailleurs, je les aime comme s'ils étaient mes enfants. Il est tout heureux, l'abbé Vergès, de retrouver la jeunesse. Il était professeur au petit séminaire de Saint-Pé, il était habitué aux collégiens, là il les trouve un peu plus grands, mais après cette vie assez monotone de prisonnier, il est tout heureux de retrouver cette jeunesse et de pouvoir voir, même si il y en a des milliers, il ne peut pas ouvrir une église, il ne peut pas avoir un panneau d'affichage pour l'aumônerie catholique, c'est les jeunes mêmes qui doivent se débrouiller pour aller voir l'abbé Vergès. Mais l'abbé Vergès devient vite connu. De telle sorte que dans son travail, il va être dans la baraque des chimistes, il dira à sa sœur, mais est-ce que c'est un code ou pas, ça, c'est pas facile à désigner. Il analyse de l'eau. Bon, il analyse de l'eau, très bien, il demande d'ailleurs au vicaire de Luz de lui envoyer de l'eau. Alors je ne sais pas si c'était vraiment, vous savez que l'eau de Luz est bonne, mais je ne sais pas si c'était de cela ou si c'était un code pour recevoir de l'eau de vie ou je ne sais quoi pour mieux tenir mes enfants. En tous les cas, il s'efforce donc le soir de faire des lectures spirituelles, il s'efforce de dire la messe, et donc d'abord dans cette église, et puis ensuite quand les temps vont devenir un peu plus compliqués, parce que justement ce curé de Meisensburg lui dit « on vous a vu aller bénir les tombes de tous les prisonniers, etc. au jour de la Toussaint », c'est l'abbé Vergès lui dit « mais qu'est-ce que j'aurais dû faire d'autre ?»« Ah rien !»« Et oui, mais qu'est-ce que je crains ?»« Mais écoutez, mon ami, si on doit mourir, nous mourrons !» C'est ce qui se passera. Donc il s'efforce de faire des petits groupes pour que eh bien, ces jeunes catholiques, vraiment fervents, hein, aillent visiter les prisonniers qui sont malades. On s'efforce avec les petits moyens du bord de faire des colis de Noël pour les malades qui ne sont pas avec eux. L'abbé Vergès va passer, c'est là où on voit que les temps vont bien changer, d'innombrables heures à confesser. Même dans la baraque des chimistes, on rapporte un témoignage, la seule fois où l'abbé Vergès a vraiment tapé du poing sur la table face aux nazis, c'était justement quand on commençait qu'il y en avait ras-le-bol de voir tous ces gens qui venaient le voir. Alors il sortait 2 minutes, 3 minutes, et puis il re-rentrait faire son travail de chimiste, et un autre venait, il ressortait. Quand on a commencé à lui dire, non mais attendez, qu'est-ce que c'est que tous ces gens qui viennent vous voir? Là, l'abbé Vergès s'est agacé. Il y a eu un froid pendant 2-3 jours, mais on l'a laissé faire. Il confessait. Il passait un temps inconsidérable à confesser, confesser, confesser. Entre ceux qui recevaient un entretien pour remonter le moral des troupes et ceux qui demandaient le sacrement de la confession, ça prenait beaucoup de temps. Il écrit souvent à sa maman le dimanche, et on voit que l'écriture est bien au début, et à la fin de la lettre, elle est beaucoup plus épuisée. Non seulement il dit « le temps ne me dure pas » parce qu'il est extrêmement occupé, mais aussi d'avoir comme ça cette sollicitation de son ministère très importante, notamment le dimanche, tout le monde est en congé. L'abbé Vergès va donc s'occuper des séminaristes, il y aura quelques autres prêtres qui vont arriver après, l'abbé Doumain qui sera bien heureux avec lui, l'abbé Doucet qui lui en ressortira, qui pourra dire que en notre Seigneur Jésus le Christ, l'abbé Vergès était le plus grand ami qu'il ait pu avoir sur la terre. Donc notre abbé Vergès s'efforce d'être prêtre au milieu eh bien, de ces conditions. Il a suivi des cours d'allemand, au début il a refusé d'assister au cours d'allemand. Puis on lui fait comprendre qu'il va être repéré. Alors déjà, qui sait qu'il est repéré, donc il dit « je vais aller au cours d'allemand ». Je pense que ça n'a pas été difficile pour l'abbé Vergès de parler allemand, professeur de latin, ça se décline. Donc il a pu parler allemand. Non, c'est vrai, il a parlé allemand. Je dis ça très vite. Hein, mais il y a des similitudes, monsieur l'abbé, je suppose. Donc lui, parler allemand. Sachez qu'il fallait répondre à son numéro de matricule en allemand, hein. On ne vous appelait pas par votre nom ou par votre prénom. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, les noms de numéros. Je crois que l'abbé Vergès, c'était le numéro 1200. Je ne sais pas si c'est plus facile que le reste, mais si vous n'alliez pas au cours d'allemand et que vous ne répondiez pas à l'appel de votre nom, bref. Donc, l'abbé Vergès a pris des cours d'allemand et donc il peut parler. Je ne sais plus pourquoi je voulais vous dire ça, excusez-moi. Donc, oui, en tous les cas, chaque fois qu'il doit parler allemand, c'est ça, c'est le témoignage, ça ne lui plaisait pas du tout de parler la langue de l'ennemi. Dans sa baraque des chimistes, je ne sais pas s'il analysait de l'eau, si on lui faisait faire autre chose, mais vous imaginez ce que représentait faire autre chose. Vous saviez très bien pourquoi vous fabriquiez des bombes si vous en fabriquiez. C'est quand même terrible hein, comme travail. Donc l'abbé Vergès s'efforce d'être prêtre au milieu de ces ténèbres et pour la plupart en ont gardé un très grand souvenir puisque sa mère, Marie, recevra dès 1944 d'innombrables lettres de gens qui viennent dire à sa mère qu'ils ont vécu aux côtés d'un saint. Après qu'il se soit fait un peu repérer, il va donc être arrêté pour avoir dit la messe. Une fois qu'il est arrêté, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans une petite note, hélas je ne l'ai pas amenée, on nous a les quelques questions, parce que une fois que les Américains viennent tout libérer, juste avant, ils ont brûlé toutes les archives. Donc on n'a plus beaucoup d'éléments de ces différents procès interrogatoires, plutôt. Plusieurs attestent que l'abbé Vergès, après cela, on lui a fait porter une pancarte espion du Vatican. Sa maman, dans la lettre que Mimi nous a apportée, comme j'ai relu ça hier soir, un certain nombre parle bien d'une séance de flagellation. Non seulement l'abbé Vergès est prisonnier comme notre Seigneur, mais il va subir également la flagellation pour le seul fait d'être prêtre et d'avoir dit la messe. L'abbé Vergès n'avait pas un comité de résistance alimenté par le pape Pionze ou le cardinal Suard. Hein. Ils sont envoyés comme ça, comme aumônerie clandestine, mais il n'y a rien de plus institutionnalisé. L'abbé Vergès, comme Bernadette pendant les apparitions, il écrit à sa maman. Il dit à sa maman, c'est drôle, moi qui avais toujours quelques bobos, c'est l'expression exacte qu'il utilise, depuis que je suis dans le camp, je n'ai plus aucun problème de santé. Si ce n'est qu'en 3 mois, il va mourir. C'est que la santé va vraiment se dégrader. Dans une lettre qu'il écrit à un ami, on ne pense pas que c'est une blague, quand un ami qui a quitté, parce qu'il avait une très mauvaise santé, le travail libre, il a pu rentrer chez lui, et donc il écrit à l'abbé Vergès, et l'abbé Vergès, dans une tournure de phrase, lui dit « Vous savez qu'il ne me reste plus qu'une dent. » Et ce n'était pas une dent contre quelqu'un, c'est que sous-alimenté, pauvre homme, Beaucoup disent que quand ils ont pu essayer de voir, parce qu'après on cherche à voir la Bévergesse et à prendre tous les risques. Le soir, c'est interdit d'aller voir. On s'efforce d'aller visiter la Bévergesse et d'aller prier quelque peu avec lui, puis de le laisser. De dire d'abord qu'il a été tondu, déjà qu'il était assez blanc, là il est diaphane, dit-on. De telle sorte que dans les derniers temps, dans ce camp de Sochaux, puisque là l'Allemagne avait bien dit, hein, que ce soit le prêtre ou le catholique qui soit trouvé à pratiquer sa foi ou à faire de l'apostolat, c'est le camp de concentration. C'est le camp. Là, c'était très clair. Nous ne voulons pas du crucifix. Je crois qu'on ne peut pas être plus clair. Donc, notre abbé Vergès est de plus en plus épuisé. Il y a une très belle histoire, un témoignage d'une personne qui vit donc les derniers temps auprès de l'abbé Vergès. Et ils ont tellement d'estime pour l'abbé Vergès qu'ils s'efforcent, quand l'Allemand a le dos tourné, de faire en sorte qu'il puisse se reposer quelques minutes et puis de reprendre son travail accablant quelques jours. Et puis, quand on voit que là, l'abbé Vergès était épuisé, on entend le temple protestant d'à côté sonner la messe. Enfin, la messe, excusez-moi, je suis un prêtre de bonnes intentions, de célébrer le culte. Et donc... On dit à l'abbé Vergès, il est 10h l'abbé, la grand-messe sonne à Lourdes. Et le témoin de dire, là, son visage s'est illuminé, pour moi, j'étais à côté du Christ. L'abbé Vergès finit par avoir des quintes de stoue interminables, il est atteint du typhus, donc il a eu quand même ses flagellations, la lettre que Mimi nous a apportée de la mère de l'abbé Vergès en fait mention également. Vous parliez aussi des ongles arrachés, enfin bref, une barbarie comme on a su en faire. Et l'abbé Vergès est épuisé, il a résisté tant qu'il a pu pour ne pas finir dans ce qui tient lieu de dispensaire, et il finit par y être, allongé sur sa paillasse. À côté de lui se tient un Allemand qui s'appelle Steiner. Steiner a été arrêté quelque temps avant. Ils se sont connus dans les interrogatoires, si on peut dire, avec l'abbé Vergès. Un jeune Allemand qui, à Leipzig, a blessé un nazi pendant une manifestation. Donc ce pauvre garçon, on l'a mis dans les travaux forcés, à charger du bois dans des wagons. Et malencontreusement ou pas, on s'est amusé à lui fermer la porte du wagon sur la jambe. Donc il est à côté de l'abbé Vergès dans l'infirmerie. L'abbé Vergès avait eu quelques formations d'infirmier, bien. Et il entend cette blessure ouverte qui fait hurler ce jeune Allemand à côté de lui. Il rassemble, c'est les derniers instants de l'abbé Vergès, il rassemble le peu de force qui lui reste dans ses quintes de toux pour se lever de son lit, pour marcher jusqu'au lit du prochain du moment, un jeune Allemand, pour, avec un peu d'eau, lui faire un peu de bandage. Et c'est en retournant vers sa paillasse qu'il tombe à genoux dans un geste d'adoration et qu'il rend là son âme à Dieu. Il y a peu, par le comité du bienheureux abbé Doumain, qui sera mort martyr aussi à côté de l'abbé Vergès, on a reçu une photo. La photo, alors sur le lit, c'est un peu exagéré parce que je pense qu'il est vraiment à genoux, du visage mortuaire de l'abbé Vergès. C'est vous dire qu'on a été chercher un appareil photo comme on a pu pour prendre en photo le visage de l'abbé Vergès. L'abbé Vergès, dans les quelques témoignages qu'on peut avoir de cette vie toute donnée à Dieu et à son Seigneur dans sa fidélité, a malgré tout toujours choisi la dernière place. Je vous raconte cette histoire, j'aurais voulu vous lire le petit extrait, je l'ai oublié, de cet interrogatoire. Alors on a dans le début les quelques brèves phrases qu'on a entendues pour le procès, c'est Chanoine Molette qui signe l'authenticité de ce témoignage, et un autre qui est un des responsables des chambres, qui rapporte ce fait. Celui qui dirigeait la chambre était étonné de voir toujours l'abbé Vergès à la même place, parce qu'il y avait de meilleures places dans la chambre et on s'efforçait de tourner. Et l'abbé Vergès était toujours assis à côté des toilettes, enfin toujours son lit. La paillasse était à côté des WC. Donc le chef dit, mais enfin, pourquoi vous ne changez pas de place, etc. Et l'abbé Vergès de lui répondre, parce qu'il y en a toujours qui pissent à côté, c'est la plus mauvaise place. Voyez, même là, il choisit la voie de la pénitence et de s'efforcer de témoigner dans ce lieu dont il dit, hein, tout est fait pour déshumaniser. Quand il écrit à sa maman, c'est toujours de grandes aspirations, quand est-ce que je verrai le pays? Alors le pays, c'est pas forcément la France, c'est le pays Toy, hein, je suis désolé, mais c'est comme ça que nous parlons de chez nous, quand nous sommes au pays Toy, quand est-ce que tu quittes le pays, quand est-ce que tu remontes au pays? Lui, il est toujours très heureux quand sa maman lui donne des nouvelles du pays, de la famille Gabi, d'un tel et d'un tel, avec toujours des petites blagues, mais tu diras, monsieur Gabi, il ne m'a pas attendu pour le baptême de sa fille, etc. Il garde toujours auprès de sa maman, c'est à la fois un fils qui écrit à sa mère qui est emprisonnier, donc il ne veut pas trop en dire non plus, puis à quoi bon l'accabler, et en même temps c'est un prêtre qui écrit à sa mère, et à travers le deuil de son père, auquel il n'a pas assisté, bien c'est là où on va pouvoir voir comment l'abbé Vergès va traverser toute cette épreuve avec une immense foi et une confiance en Dieu de chaque instant. Le décès du père arrive en 41, et là, je vous lis un extrait, le 19 mars 1944. « Bien chère maman, chère Mimi. » Mimi, c'est sa sœur. Elle s'appelle Clémentine, et chez nous, les surnoms, c'est Mimi, n'est-ce pas Mimi et Lulu? Chez nous, on aime les surnoms à deux syllabes. « 3 ans aujourd'hui que papa nous a quittés. J'imagine sans peine la tristesse qui doit être la vôtre. » Au retour d'un anniversaire si douloureux, et une fois encore, nous sommes séparés et ne pouvons revivre ensemble les souvenirs douloureux de notre famille. Aujourd'hui, peut-être encore davantage, ma pensée est plus près de vous. Pour moi, je crois vous l'avoir déjà dit, je n'ai pas encore réalisé ce qui s'est passé et il ne me semble pas possible qu'à mon retour, papa ne soit plus au milieu de nous. Il eût été si heureux. Mais, c'est le prêtre maintenant qui parle à sa mère, nous ne devons pas oublier que pour nous, ce n'est qu'une séparation momentanée et qu'un jour, nous retrouverons tous ceux que nous aurons connus et aimés. Pour vous, soyez toujours courageuses. L'épreuve doit être bien dure pour vous deux, mais ayez surtout une grande confiance. Il dira à un autre endroit, tournons surtout nos regards vers Dieu, c'est en lui que nous devons garder notre confiance et notre espoir. Et quand l'abbé Vergès, dans quelques moments, dit bien l'impatience de devoir toujours attendre et de ne pas savoir ce qu'on attend, de savoir qu'un jour on sera libéré mais on ne sait pas quand, il se ressaisit toujours en disant, on ne le sait pas, mais Dieu le sait. C'est ça le principal. Donc voilà un peu ce qu'a été la vie de ce prêtre tout jeune. Hein. Il meurt à 34 ans. Une vie qui aurait pu être une vie de curé, de prêtre, professeur, peut-être dans le diocèse tout ordinaire et que répondant providentiellement hein, aux événements les uns après les autres, eh bien, a su, en raison de ce baptême qu'il avait reçu au jour de Pâques, et bien malgré tout faire triompher les lumières au milieu des ténèbres auprès desquelles il était envoyé. Ce baptême a été donc porté comme en plénitude entre ce 12 ou ce 14 décembre 1944 où il rendit son âme à Dieu dans ce dernier acte de charité, je vous disais, pour son baptême, hein, le baptême, ce qui nous caractérise, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain, et bien on voit comment dans sa vie sacerdotale, d'abord la vie de tout baptisé, et la vie sacerdotale qui plus est, répondre à l'amour de Dieu, l'amour de la messe, de savoir que le Seigneur est là, présent, et l'amour du prochain. On voit bien dans ce dernier geste de charité qu'il a pu opérer avant de mourir, en plus, à l'endroit d'un Allemand, alors plutôt du bon côté apparemment, mais quand même. Voilà comment l'abbé Vergès a su bien être configuré au Christ et comme transfiguré par toute sa vie. Les témoignages que nous avons eh bien, sont peu nombreux. Tout d'abord, nous avons reçu, là j'ai quelques lettres, le comité Abbé Vergès, ce qui a été fait, la position. Donc il y a quelques lettres qui ont été données par la famille, il y a ensuite quelques témoignages. Mais on voit bien une chose, c'est que le souvenir de l'abbé Vergès, il a été un peu oublié dans l'Église, hein, bien que le Saint-Siège ne nous a jamais oublié, ça j'ai pu trouver, pour payer ce que l'on doit régulièrement pour la cause de béatification. On avait quand même un peu oublié pourquoi on payait, quelque part. Parce que vraiment, hein, quand l'évêque, on était au deuxième étage, je me dis, l'abbé, nous avons un prêtre du diocèse qui va être béatifié, j'ai été comme Bernadette, mon premier mouvement n'a pas été agréable, il l'a vu, il m'a dit « Non, non, mais je viens de l'apprendre. » Oui, j'ai été très étonné, je me suis dit « Mais comment, cette béatification, on n'est pas au courant, le 13 décembre, il devait m'annoncer ça fin août. » Eh bien voilà que Dieu a voulu nous faire une grâce en cette année jubilaire, celle d'être porté aux autels, et bien l'une des gloires de notre presbytérium bigourdan. On rapporte par Saint Grégoire de Tours, le martyr, du moins ils sont classés dans la catégorie des confesseurs de Saint Justin et de Saint Micelin, mais on ne sait rien, ni sur les raisons, en proie aux barbares, on ne sait pas lesquels, qui plus est, ni même le mode de mort, parce que ce qui intéresse, je vous l'avais dit, ce qui intéresse Saint Grégoire de Tours et ce qui intéresse les gens à ce moment-là, ce n'est pas tant comme nous la vie du saint, tout d'abord, que le surnaturel qui se manifeste sur la tombe, c'est-à-dire le fait que Dieu passe par eux pour accomplir son œuvre de miséricorde à l'endroit des malades, son œuvre de puissance. En tous les cas, eh bien voilà ce grand frère qui nous est proposé. Alors sa maman, Marie, femme de grande foi, a perdu en quelques années son mari en 1941, son fils prêtre en 1944, et Clémentine, qui a été un temps institutrice à Chaises, un de nos villages du Pays Thaud, et puis après son mariage, va partir à la Courneuve à Paris, va mourir en 1950. Ça veut dire que Marie, dont vous vous rappelez toujours la robe bigourdane noire, a porté et le deuil de son époux, de son fils et de sa fille. Avec une foi immense, relisant régulièrement les lettres que son fils lui avait envoyées, quelques-unes que nous avons aujourd'hui, s'efforçant donc de le faire rapatrier, de ceux qui font témoignage, dit bien que parce qu'elle avait réussi à connaître un général, mais quand la bigourdane le veut, Dieu le veut. Hein. Elle avait réussi non seulement à faire rapatrier l'abbé Vergès, mais comme si elle ne voulait pas faire que pour son fils, aussi l'abbé Doumain et, je ne sais plus le nom de l'autre bienheureux corbeau, le cerf, je crois, elle les fait rapatrier. Il aura une messe d'obsèques à l'église de Lucien Sauveur, puis l'après-midi, une autre messe sera célébrée à l'église d'Argelès-Gazos jusqu'à rejoindre le caveau familial que Marie avait choisi entre Aucum et Luz à Argelès, où, la semaine dernière, nous étions réunis auprès de la tombe, parce que nous avons fini par retrouver tous les documents attestant bien que l'abbé Vergès est présent dans cette tombe. Je crois que vous comprendrez qu'il faut lui demander d'innombrables grâces pour nous-mêmes. D'abord, celle de vivre cette foi jusqu'au bout, à son exemple, que l'on soit prêtre, mais aussi que l'on soit fidèle. Parce que Mgr Perrier râle sur un point, il a raison, c'est que dans la nomenclature des la disposition des noms, on a gardé une disposition traditionnelle, les prêtres, les religieux, puis les fidèles. Et Mgr Perrier dit, attention, pour les martyrs de l'apostolat, c'est l'inverse, parce que c'est d'abord les fidèles qui ont demandé à ce que les prêtres viennent, parce qu'ils avaient soif de l'enseignement de l'Évangile. Alors ça, ils auraient pu encore, parce qu'ils étaient formés, je peux vous dire. Quand on lit l'héroïcité de ces gens-là, on se dit que l'action catholique a vécu là, à travers ces martyrs de l'apostolat, une apogée. Et donc, on peut demander donc à l'abbé Vergès eh bien, qu'il fortifie notre foi, qu'il nous attache toujours davantage à l'amour de la messe où nous rencontrons le Seigneur. Vous voyez jusqu'à quel prix il l'a payé, cette fidélité au Christ. Et on le dit, la messe est la réactualisation non sanglante du sacrifice du Christ. Eh bien, le sang des martyrs, qui est semence de chrétiens, eh bien, il est versé à la suite de notre Seigneur Jésus le Christ, et lui demander aussi, car nous en avons besoin, des vocations, en particulier pour notre Bigorre. Alors vous pourrez vous procurer ces petits fascicules qu'au comité de l'abbé Vergès nous avons fait, dans lesquels il y a une photo de l'abbé Vergès sur la croix centrale, parce qu'on ne peut pas non plus séparer l'abbé Vergès des autres martyrs, même si la plupart ne se sont pas connus. Mais ils ont vécu le même amour du Christ et le même amour du prochain. Et il y a donc trois prières. Une prière d'action de grâce pour la vie donnée de l'abbé Vergès, puis une prière pour demander la canonisation des bienheureux martyrs de l'apostolat catholique, et puis une prière pour les vocations, c'est cette dernière écrite par Mgr Perrier que je voudrais que nous récitions avant de nous séparer pour célébrer les vêpres. J'entendis la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Seigneur, nous vous prions d'envoyer des ouvriers pour la moisson. À l'exemple du bienheureux Pascal Vergès, que de jeunes hommes entendent l'appel à être prêtres, qu'ils l'entendent et répondent « Me voici, envoyez-moi ». Malgré la persécution des nazis, l'abbé Pascal Vergès et d'autres prêtres ont pris le risque de rejoindre ceux qui étaient déportés en Allemagne au service du travail obligatoire. Ils ont découvert parmi eux des jeunes rayonnant de l'Évangile. Ceux-ci les attendaient pour recevoir la parole, l'Eucharistie, le pardon, en communion avec l'Église des apôtres. Ensemble, prêtres et laïcs, ils furent témoins, martyrs, jusqu'à la mort. À sa première messe, l'abbé Pascal Vergès disait « La Vierge m'en est témoin. Prêtre, je suis. Prêtre, je le serai jusqu'à la mort. » Avec votre grâce et sous le regard de la bienheureuse Vierge Marie, il a tenu parole. Que l'Esprit-Saint ravive la foi, l'espérance et la charité dans nos communautés, pour que des vocations sacerdotales puissent y naître et s'épanouir. Que l'exemple du bienheureux Pascal Vergès donne confiance à ceux que vous appelez, Seigneur, à être des témoins audacieux de votre amour. Amen. Bienheureux Pascal Vergès, bienheureux Pascal Vergès, bienheureux Pascal Vergès. Bienheureux Pascal Vergès.